Chapitre 5. Le lever du soleil sur la mer des Hautes Herbes était un pur objet de beauté. Le consul contempla le spectacle du point le plus élevé du pont arrière. Après son tour de garde, il avait essayé en vain de dormir, puis il était remonté sur le pont voir la nuit pâlir avec les premières lueurs du matin. Le front orageux alignait à l'horizon ses nuages sombres, ourlés d'or en haut et en bas par le soleil levant qui se reflétait sur le monde. Les voiles, les cordages et les espars, polis par le temps du chariot avant, brillèrent quelques minutes sous cette brève manne de lumière privilégiée, juste avant que les nuages, obscurcissant le ciel, retirent de nouveau toute couleur au monde. Le vent qui suivit ce tombé de rideau fut glacial, comme s'il descendait des sommets enneigés de la chaîne Bridée, à peine visible sous la forme d'une masse floue à l'horizon du nord-est. Brown Lamia et Martin Silenus rejoignirent bientôt le consul sur la plage arrière avec une tasse de café chaud qu'il s'était servi dans la cambuse. Le vent faisait gémir le gréement et claquer les voiles. La masse de boucles épaisses de Brown Lamia auréolait son visage comme un nimbe noir.
« Bonjour !»
grogna Silenus en louchant par-dessus sa tasse en direction de la mer des hautes herbes creusées par le vent. « Bonjour !» répondit le consul, étonné de se sentir alerte malgré la nuit blanche qu'il venait de passer.
« Nous avons le vent dans la proue, mais le chariot se comporte bien. Je pense que nous atteindrons les montagnes avant le soir.
» commenta Silenus, le nez dans sa tasse.
« Je n'ai pas fermé l'œil, » dit Brown Lamia. « Je pensais à l'histoire de H. Weintraub. »
« Je ne crois pas que... » commença le poète.
Il s'interrompit à l'arrivée de Weintraub avec son bébé, dont la tête dépassait du sac en bandoulière contre sa poitrine.
« Bonjour tout le monde, » fit Weintraub en regardant autour de lui.
« Il ne fait pas chaud ce matin, n'est-ce pas ? » ajouta-t-il après avoir pris une grande inspiration.
« Vous voulez dire qu'on se les gèle, oui ?» lui dit Silenus. « Et au nord des montagnes, ce sera pire. »
« Je descends prendre un gilet, » fit Brown Lamia.
Mais avant qu'elle pût faire un pas, un cri perçant monta de l'entrepont.
« Tu sens ?»
Il y avait effectivement du sang partout. La cabine de Het-Mastyn était curieusement intacte, le lit non défait, les malles et les autres bagages soigneusement empilés dans un coin, la robe pliée sur le dossier d'une chaise. À l'exception du sang qui couvrait de larges sections du plancher, des cloisons et du plafond. Les six pèlerins se massèrent à l'entrée, hésitant à avancer.
« Je passais dans la coursive pour monter sur le pont, »
expliqua le père Hoyt d'une voix étrangement monocorde.
« La porte était entrebâillée. J'ai aperçu le sang sur le mur. »«
Est-ce réellement du sang ?»
demanda Martin Silenus. Brown Lamia entra dans la cabine, passa la main sur une large trace qui s'étalait sur la cloison, porta deux doigts à ses lèvres.
« C'est bien du sang. »
Elle regarda autour d'elle, marcha jusqu'à l'armoire, jeta un bref coup d'œil au cintre et aux étagères vides, puis s'avança jusqu'au hublot. Il était verrouillé de l'intérieur. Lennart Hoyt, l'air plus malade que jamais, se laissa tomber sur une chaise.
« Il est mort, alors ?»«
Nous ne savons pas la moindre foutue chose, » répliqua Lamia.
« Tout ce que nous pouvons constater, c'est que le commandant Mastyn n'est pas dans sa cabine, mais qu'il y a pas mal de sang à sa place. »
Elle s'essuya la main sur la jambe de son pantalon.
Ce qu'il faut faire maintenant, c'est fouiller ce vaisseau de fond en comble.
Absolument, dit le colonel Cassad. Mais si nous ne retrouverons pas le commandant?
Brown Lamia ouvrit le hublot. L'air frais dissipa aussitôt l'odeur d'abattoir tandis que le grondement régulier de la roue et le froissement de l'herbe contre la coque entraient dans la cabine.
Si nous ne le retrouvons pas, dit-elle, nous en conclurons qu'il a quitté le vaisseau, soit volontairement, soit contre son gré.
« Mais tout ce sang !»
commença le père Hoyt.
« Cela ne prouve absolument rien, » lui dit Cassad. « H. Lamia a parfaitement raison. Nous ne sommes pas en mesure d'identifier ses traces. Nous ne connaissons pas le génotype de Mastyn. Personne n'a vraiment rien vu ni entendu. »
Il n'y eut que le silence pour réponse, à l'exception de quelques grognements soulignés par des mouvements de tête négatifs. Martin Silenus regarda autour de lui.
« Vous n'êtes donc pas capable de reconnaître le travail de notre ami le Gritch quand vous le voyez ? »
demanda-t-il.
« Qu'est-ce que nous en savons ? »
coupa sèchement Lamia.
C'est peut-être quelqu'un qui cherche à nous faire croire qu'il s'agit du Gritch.
Tout cela n'a pas de sens, dit Hoyt qui semblait avoir encore du mal à respirer.
Nous fouillerons tout de même ce vaisseau par groupe de deux, décida Lamia. Qui est armé à part moi ?
J'ai une arme, fit le colonel Cassad. J'en ai même plusieurs si ça vous intéresse.
Non,
refusa le père Hoyt. Le poète secoua la tête.
Seul Weintraub revenait dans la coursive avec son bébé. Il passa la tête à l'intérieur de la cabine.
« Je n'ai rien, » dit-il.
« Moi non plus, » déclara le consul.
Il avait rendu le bâton de la mort à Cassad lorsque celui-ci avait pris sa relève 2 heures avant l'aube.
« Très bien, » déclara Lamia.
« Le prêtre viendra avec moi sur le pont inférieur. Silenus, vous accompagnerez le colonel. Fouillez tout l'entrepont. H. Weintraub, vous et le consul, vous examinerez toute la partie supérieure du vaisseau. » Donnez l'alerte si vous apercevez quoi que ce soit d'inhabituel, le moindre signe de lutte en particulier.
Juste une question, dit Silenus.
Oui ?
Qui vous a élu reine du bal ?
Je suis détective privé,
répliqua Lamia en soutenant froidement le regard du poète. Martin Silenus haussa les épaules.
Hoyt est le prêtre de je ne sais quelle religion oubliée,
dit-il.
Cela ne nous oblige pas à nous agenouiller chaque fois qu'il dit la messe.
« D'accord, soupira Lamia. Je vais vous fournir une meilleure raison. »
Elle entra en action avec une telle rapidité que le consul, pour avoir cligné une fois des yeux, faillit ne pas la suivre. Un instant, elle se trouvait devant le hublot ouvert, et l'instant d'après, elle était au milieu de la cabine, soulevant Martin Silenus du sol avec un bras, sa main massive autour du cou fragile du poète.
« Et si la logique, haleta-t-elle, consistait simplement à faire ce qui est logique ?» Parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Réussit à couiner Martin Silenus.
Bon,
fit-elle d'une voix dépourvue de toute émotion en laissant choir le poète sur le plancher. Silenus tituba sur 1 mètre et faillit retomber assis sur Hoyt.
Voilà,
leur dit Cassad en revenant avec 2 petits neuro-étourdisseurs. Il entendit un à Sol Weintraub.
Qu'est-ce que vous avez comme arme ?
Demanda-t-il à Lamia. Elle plongea la main dans une poche de sa tunique et en sortit un pistolet archaïque. Cassad considéra quelques instants l'objet d'antiquité, puis hocha la tête.
« Ne vous éloignez à aucun prix de votre équipier, » dit-il. « Ne tirez pas si vous n'êtes pas absolument sûr d'avoir identifié votre cible et qu'elle représente vraiment une menace. »
« Cela s'applique exactement à la salope que j'ai l'intention de buter !»
fit Silenus sans cesser de se masser la gorge. Brown Lamia fit un demi-pas vers le poète. Fedman Cassad s'interposa.
« Allons, cessez, » dit-il. « Au travail !»
Silenus le suivit dans la coursive. Sol Weintraub se rapprocha du consul et lui tendit son étourdisseur.
« Je ne veux pas de ce truc-là avec Rachel dans les bras, » dit-il.
« On monte ?»
Le consul lui prit l'arme des mains tout en hochant la tête. Le chariot avant ne contenait plus le moindre signe de présence de la voix de l'arbre authentique, le templier Et Mastine. Après avoir fouillé le vaisseau pendant 1 heure, le groupe se rassembla dans la cabine du disparu, où les traces de sang, plus noires, semblaient avoir séché.
« Quelque chose aurait-il pu nous échapper ?»
demanda le père Hoyt.
« Un passage secret ? Une cachette quelconque ?»«
C'est possible, » fit Cassad. Mais j'ai passé tout le vaisseau au détecteur thermique et au détecteur de mouvement. S'il y a à bord quelque chose de plus gros qu'une souris qui m'a échappé, c'est vraiment bien caché.
Si vous aviez ces foutus détecteurs,
grogna Silenus,
pourquoi nous avoir laissé ramper dans la merde pendant 1 heure?
Parce qu'il est toujours possible, avec un équipement approprié, d'échapper à une fouille électronique.
Si je comprends bien,
déclara Hoyt en faisant la grimace, visiblement sous le coup d'une vague de douleur.
« Pour répondre à ma question, vous nous dites qu'avec un équipement approprié, le commandant Mastine pourrait très bien se cacher quelque part à bord ?»«
C'est possible, mais improbable à mon avis, » dit Brown Lamia. « Je pense qu'il n'est plus à bord. » »«
Le Gritch !»
fit Martin Silenus d'une voix écœurée. Et ce n'était pas une question.
« C'est une autre possibilité, » murmura Lamia.
« Colonel, le consul et vous avez monté la garde pendant ces 4 heures. Vous êtes bien sûr de n'avoir rien vu ni entendu. » Les 2 hommes hochèrent la tête.
Il n'y avait pas le moindre bruit à bord, lui dit Kassad. S'il y avait eu une lutte, j'aurais entendu quelque chose, même avant de prendre mon tour de garde.
Quant à moi, je n'ai pas pu dormir lorsque j'ai regagné ma cabine, déclara le consul. Elle est contiguë à celle de Mastin. Je n'ai rien entendu du tout.
Très bien, déclara Silenus. Les deux suspects armés qui rôdaient dans le noir quand la pauvre victime a été zigouillée se déclarent innocents. Au suivant de ces messieurs.
Si Mastin a été tué, expliqua le colonel Kassad, ce n'est pas avec un bâton de la mort. Aucune arme moderne silencieuse à ma connaissance ne projette une telle quantité de sang. Aucune détonation n'a été entendue. Aucune trace de projectile n'a été retrouvée. Je pense qu'on peut dire aussi, par conséquent, que le pistolet automatique de H. Lamia ne peut être soupçonné. Si le sang appartient bien au commandant Mastin, l'arme utilisée était plutôt, à mon avis, une arme blanche.
« Le Gritch entre dans cette catégorie »,
fit remarquer Martin Silenus. Lamia s'approcha du petit tas de bagages. « Ce n'est pas en discutant que nous allons résoudre le problème, » dit-elle. « Voyons plutôt si nous découvrons quelque chose dans les affaires de Mastin. » Lénard Hoyt leva une main hésitante.
« Ce sont ses possessions privées, » dit-il. « Je ne sais pas si nous avons le droit. »
Brown Lamia croisa les bras. « Écoutez, père Hoyt, si Mastin est mort, il n'y verra pas d'objection. S'il est vivant, fouiller dans ses affaires nous donnera peut-être une idée de l'endroit où il a été conduit. Dans les deux cas, nous devons essayer de découvrir un indice. »
Hoyt hocha la tête d'un air peu convaincu. Mais finalement, la fouille se révéla peu indiscrète. La première malle de Mastin ne contenait que du linge de rechange et un exemplaire du livre de vie du Muir. Dans le sac, il y avait une centaine de graines séchées, enveloppées séparément et conservées dans du terreau humide. Les Templiers ont le devoir de planter au moins 100 graines de l'arbre d'éternité sur chaque monde où ils se rendent, expliqua le consul. Elles germent rarement, mais c'est plutôt un rituel qu'autre chose. Brown Lamia se pencha sur la caisse en métal qu'elle venait de dégager.
« N'y touchez pas !»
s'écria le consul.
« Et pourquoi ?»«
C'est un cube de Mobius, » répondit le colonel Kassad à la place du consul. « Une enceinte de carbone-carbone autour d'un champ de confinement à impédance nulle replié sur lui-même. »
« Et alors ?» demanda Lamia.
« Les cubes de Mobius servent à isoler des matériaux ou des artefacts. Ils ne présentent pas de danger d'explosion ou de quoi que ce soit. »
« C'est exact, » reconnut le consul, « mais leur contenu peut très bien être explosif, ou même avoir déjà explosé. »
« Un cube de cette taille peut tenir en laisse une explosion nucléaire de l'ordre du millier de tonnes, à condition qu'elle ait été mise en boîte pendant la nanoseconde suivant la mise à feu, » ajouta Kassad.
Lamia fit la grimace. « Comment savoir, dans ce cas, si ce n'est pas quelque chose qui se cache dans cette caisse qui a tué Mastin ?»
Kassad lui montra une bande verte lumineuse qui longeait la seule rainure visible du conteneur. Il est encore scellé. Une fois ouvert, un cube de Mobius pour être réactivé doit être transporté à un endroit où existent des installations capables de générer un champ de confinement. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci, mais je suis en mesure de vous assurer que ce n'est pas cela qui a attaqué le commandant Mastin.
Nous n'avons donc aucun indice, fit Lamia.
« Je peux émettre une hypothèse, » dit le consul. Les autres se tournèrent vers lui. Au même moment, Rachel se mit à pleurer et Sol détacha la bande autochauffante d'un biberon.
« Rappelez-vous, » reprit le consul. « Hier, lorsque nous nous trouvions à la bordure, Mastin nous a parlé du cube en nous laissant entendre qu'il s'agissait d'une arme secrète. »«
Une arme secrète ?» répéta Lamia.
« Bien sûr !» s'exclama Kassad. « C'est un ergue !»«
Un ergue ?»
demanda Martin Silenus en regardant la caisse.
« Je croyais que les ergues étaient ces créatures à champ de force que les Templiers utilisent pour protéger leur vaisseau. »«
C'est bien cela, » lui dit le consul. « Ces créatures ont été découvertes il y a environ 3 siècles sur les astéroïdes qui entourent Aldébaran. Leur corps occupe à peu près le même volume que l'épine dorsale d'un chat, et consiste principalement en un système nerveux piézoélectrique enrobé d'un cartilage de silicium. Mais ils se nourrissent de champs de force qu'ils manipulent et qui ont la taille de ceux que peut engendrer un petit vaisseau à effet de spin.
« Et comment fait-on tenir tout ça dans la petite boîte ?»
demanda Silenus.
« Avec des effets de miroir ?»«
C'est à peu près ça, » répondit Kassad.
Leur champ de force est suspendu. Ils ne se nourrissent pas et ne dépérissent pas. Un peu comme l'état de fugue pour nous. Sans compter qu'il doit s'agir d'un spécimen assez jeune, un bébé si vous voulez.
Lamia passa la main le long de la boîte de métal.
Les Templiers les contrôlent ?
Ils communiquent avec eux ?
Oui, répondit Cassade. Personne ne sait au juste de quelle manière, car c'est l'un des grands secrets de leur fraternité. Mais Het Mastyn avait certainement de bonnes raisons de croire qu'un Nerg pouvait l'aider à combattre...
Le Gritch,
acheva pour lui Martin Silenus.
Le Templier pensait que cette créature d'énergie serait son arme secrète face au Seigneur de la Douleur.
Il éclata de rire. Le père Hoyt se racla la gorge et murmura
« L'Église a accepté l'avis de l'hégémonie, selon lesquels ces ergues ne sont pas des créatures sensitives et ne sont pas non plus, par conséquent, candidats au salut. »«
Vous vous trompez, père Hoyt, lui dit le consul. Ils sont bien plus sensitifs que nous ne pouvons même l'imaginer. » Mais si vous voulez dire intelligent et doté de conscience, alors vous pouvez les comparer à un criquet des champs. Est-ce que les criquets, d'après vous, sont candidats au salut de leur âme ?
Hoyt ne répondit pas. En tout cas, intervint Brown Lamia, il est évident que le commandant Mastyn comptait sur eux pour assurer son salut à lui et que quelque chose n'a pas marché comme il l'espérait.
Elle fit une nouvelle fois du regard le tour de la cabine au mur maculé de sang séché.
Ne restons pas ici, dit-elle.
Le chariot avant tirait des bordées contre les vents de plus en plus violents à mesure que le grain s'approchait du nord-est. Des banderoles nuageuses effilochées couraient, blanches, sur le fond gris du rideau annonçant la tempête. L'herbe claquait et se couchait sous les rafales de vent glacé. Les éclairs par cascades illuminaient l'horizon, suivis de coups de tonnerre qui résonnaient comme des tirs de semonce à l'avant du vaisseau. Les pèlerins contemplèrent ce spectacle en silence, jusqu'au moment où les premières gouttes de pluie glacée les chassèrent du pont et les obligèrent à se réfugier dans la grande cabine de poupe.
« J'ai trouvé ça dans la poche de sa robe, »
dit Brown Lamia en montrant aux autres un morceau de papier sur lequel était tracé le chiffre 5.
« C'était donc lui qui devait raconter la prochaine histoire, » murmura le consul.
Martin Silenus inclina sa chaise en arrière jusqu'à ce que le dossier bute contre la fenêtre. Les éclairs donnaient à ses traits de satyre un caractère légèrement démoniaque.
« Il y a une autre possibilité, » dit-il. « C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore parlé qu'il a tué pour échanger le numéro 5 avec le sien. »
Lamia le regarda froidement.
« Il n'y a plus que le consul et moi, » articula-t-elle d'une voix tranquille.
Silenus haussa les épaules. Elle tira un morceau de papier de sa tunique et le montra aux autres.
« J'ai le numéro 6. Qu'est-ce que j'aurais gagné ? De toute manière, c'est mon tour. »
« C'est peut-être pour empêcher Mastyn de parler qu'on l'a tué, »
fit le poète en haussant de nouveau les épaules.
« Mais personnellement, je crois plutôt que c'est le Gritch qui commence à nous massacrer. Qu'est-ce qui a pu nous laisser croire qu'il nous laisserait nous approcher des tombeaux du temps alors qu'il tue des gens sur toute la moitié de la distance qui nous sépare de Kitz ?
« Notre cas est différent, » protesta Sol Weintraub. « Nous sommes des pèlerins du Gritch. »
« Et alors ?»
Dans le silence qui s'ensuivit, le consul marcha jusqu'aux grandes baies de la cabine. Des torrents de pluie courbés par le vent obscurcissaient la mer et crépitaient contre les carreaux. Le chariot craquait de toutes ses membrures et s'inclina fortement sur tribord pour tirer une nouvelle bordée.
« Ashlamia, » demanda le colonel Cassade. « Voulez-vous commencer votre histoire tout de suite ?»
Elle croisa les bras en contemplant la pluie qui ruisselait sur le verre.
« Non. Attendons de quitter ce maudit vaisseau. Il pue la mort. »
Le chariot avant atteignit le port du repos du pèlerin en milieu d'après-midi. La tempête qui faisait rage voilait tellement la lumière que les voyageurs fatigués avaient l'impression que la nuit tombait. Le consul s'attendait à ce stade de leur voyage à être accueilli par des représentants du temple Gritchtek, mais le repos du pèlerin était aussi désert que l'avait été la bordure. La vue des premières collines et des sommets lointains de la chaîne bridée ranima un peu l'énergie des 6 candidats pèlerins qui restèrent sur le pont malgré la pluie glacée qui continuait de tomber. Les contreforts étaient à la fois arides et sensuels, leurs courbes brunes et leurs pitons épars contrastant fortement avec la verdoyante monochromie de la mer des hautes herbes. Au loin, les sommets de 9000 mètres se devinaient à peine à leur surface grise et blanche très vite occultée par le plafond bas des nuages. Mais même ainsi, ils donnaient une impression de puissance. La limite des neiges descendait jusqu'à un niveau situé juste au-dessus de l'assemblage hétéroclite de taudis carbonisés et d'autels sordides qui constituaient le repos du pèlerin.
« S'ils ont détruit le téléphérique, c'en est fini de nous, » grommela le consul.
Cette pensée, refoulée jusqu'à maintenant, lui révulsa l'estomac.
« J'aperçois les 5 premiers pylônes, » déclara le colonel Cassade qui avait sorti ses jumelles. Ils paraissent intacts.
Vous voyez une cabine ?
Non. Attendez. Oui.
Il y en a une devant la station de départ.
Elle ne bouge pas ?
Demanda Martin Silenus, qui comprenait de toute évidence la gravité de la situation dans laquelle il se trouverait si la cabine n'était pas en état de fonctionner.
Non.
Le consul secoua la tête. Même par mauvais temps et en l'absence de tout passager, les cabines continuaient de fonctionner pour assurer la souplesse des câbles et les empêcher de se recouvrir de glace. Les 6 pèlerins avaient monté tout leur bagage sur le pont avant même que le chariot avant eût fini de carguer ses voiles et de sortir sa passerelle. Ils s'étaient tous chaudement vêtus. Cassade portait la capote thermouflage réglementaire de la force. Brown Lamia avait revêtu un long manteau appelé trench coat pour des raisons depuis longtemps oubliées de tout le monde. Martin Silenus était couvert d'épaisses fourrures chatoyantes qui tiraient tantôt sur le noir, tantôt sur le gris, selon les caprices du vent. Le père Hoyt était tout en noir, ce qui lui donnait, plus que jamais, l'allure d'un épouvantail. Seul Weintraub arborait une épaisse parka de duvet qui le protégeait en même temps que l'enfant. Le consul, enfin, avait le manteau un peu élimé, mais toujours efficace, que sa femme lui avait offert plusieurs dizaines d'années auparavant.
« Que faisons-nous des affaires du commandant Mastin ?»
demanda Sol tandis qu'il se regroupait en haut de la passerelle en attendant le retour de Cassade, qui était parti en reconnaissance dans le village.
« Je les ai amenés, » dit Lamia. « Nous les emportons avec nous. »
« Je ne sais pas si ce que nous faisons est bien, » déclara le père Hoyt. « Je veux dire, quitter le chariot ainsi sans même une messe ou une cérémonie à sa mémoire ?»«
Nous ne savons pas s'il est mort. »
lui rappela Brown Lamia en soulevant d'une main un sac à dos qui devait peser 40 kilos. Hoyt lui lança un regard incrédule.
« Vous croyez vraiment qu'il pourrait être encore en vie ?»«
Non, »
dit-elle tandis que des flocons de neige se posaient sur ses cheveux noirs. Cassade apparut à l'autre bout du quai et leur fit signe de descendre. Ils sortirent les bagages du chariot silencieux. Personne ne regarda en arrière.
« Il n'y a personne ?»
demanda Lamia quand ils eurent rejoint le colonel, dont la capote caméléon oscillait entre le gris pâle et le noir.
« Personne. Pas de mort.
Non. »
Il se tourna vers Sol et le consul.
« Vous avez pris les affaires dans la cambuse ?»
Les deux hommes hochèrent affirmativement la tête.
« Quelles affaires ?»
demanda Silenus.
« Des vivres pour une semaine. »
fit Cassade en se tournant vers la station du téléphérique. Pour la première fois, le consul remarqua le long fusil d'assaut que le colonel tenait sous l'aisselle, à peine visible sous sa capote.
« Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir nous ravitailler les jours prochains, » ajouta Cassade.
« Qui sait si nous serons vivants ou morts dans une semaine ?» songea le consul. Mais il s'abstint de toute remarque.
Ils firent 2 voyages pour porter tout le matériel à la station. Le vent soufflait lugubrement à travers les fenêtres ouvertes et les verrières brisées de l'abri. Au second voyage, le consul porta le cube de Mobius avec le père Hoyt, qui dut s'arrêter plusieurs fois pour souffler.
« Pourquoi emmener cette ergue avec nous ?»
demanda le prêtre en haletant lorsqu'ils furent au pied de l'escalier de métal qui conduisait à la plateforme. La station était envahie par la rouille, qui formait des plaques et des traînées oranges faisant penser à des lichens.
« Je ne sais pas, »
répondit le consul, un peu essoufflé lui aussi. De la plateforme, ils avaient une vue plongeante sur la mer des hautes herbes. Le chariot avant était là où il l'avait laissé, ses voiles roulées, forme sombre et sans vie. La tempête de neige qui balayait la plaine donnait l'illusion de moutons blancs couronnant à perte de vue l'immensité de l'océan vert.
« Chargez le matériel dans la cabine, » ordonna Kassad. « Je vais voir si le mécanisme peut être mis en marche à partir du poste de commande de la station. »«
Le fonctionnement n'est pas automatique ?»
demanda Martin Silenus, dont la tête minuscule se perdait au milieu des fourrures.
« Je ne crois pas, » lui dit Kassad. « Dépêchez-vous de tout charger, je vais voir ce que je peux faire. »«
Et si la cabine part sans vous ?»
demanda Lamia, tandis qu'il s'éloignait déjà.
« Cela ne risque pas de se produire. N'ayez pas peur. »
L'intérieur de la cabine était glacé et nu, à l'exception des bancs de métal du compartiment avant et d'une douzaine de couchettes rudimentaires dans la partie arrière plus petite. L'espace ne manquait pas. Le tout faisait au moins 8 mètres sur 5. L'arrière était séparé du corps principal de la cabine par une mince cloison de métal percée d'une ouverture, mais sans porte. Un coffre de rangement occupait un coin du compartiment arrière. À l'avant, des panneaux vitrés occupaient tout l'espace entre une hauteur de taille et le toit. Les pèlerins avaient mis leurs bagages en tas au centre du vaste plancher et se réchauffaient comme ils le pouvaient en battant des pieds par terre ou en agitant les bras. Martin Silenus était allongé sur l'une des banquettes, et seuls ses pieds et le sommet de son crâne émergeaient des fourrures.
« J'aimerais bien savoir où est le bouton du chauffage dans ce foutu truc de merde !»
dit-il d'une voix étouffée. Le consul se tourna vers le tableau d'éclairage plongé dans l'obscurité.
« C'est électrique, » dit-il. « Le chauffage se mettra en marche quand le colonel aura fait démarrer la cabine. »«
S'il réussit !»
ajouta Silenus. Seul Weintraub venait de changer Rachel. Dans sa thermocombinaison, elle ressemblait à une petite boule qu'il berçait maintenant doucement dans ses bras.
« Vous savez que c'est la première fois que je viens ici, » dit-il.
« Est-ce votre cas aussi ?»«
Non !»
grogna le poète.
« Oui, » répondit le consul. « Mais j'avais déjà vu le téléphérique en image. »
Kassad nous a dit qu'il avait fait un jour le voyage de retour à Kitz par cette voie !»
leur cria Brown Lamia du compartiment arrière.
« Je pense, » commença Sol Weintraub,
il fut interrompu par un grand bruit de rouage qui s'enclenchait et par une secousse qui ébranlait la cabine. Tout le monde se précipita vers la fenêtre qui donnait sur le quai. Kassad avait mis toutes ses affaires à bord avant de grimper à l'échelle qui conduisait au poste de commande à quai. Ils le virent sortir en courant, descendre l'échelle à toute vitesse et courir pour rattraper la cabine qui dépassait déjà la partie horizontale du quai.
« Il n'y arrivera pas !»
souffla le père Hoyt. Les longues jambes de Kassad sprintaient à une vitesse impossible sur les 10 derniers mètres qui le séparaient du bout du quai. Il ressemblait à une silhouette de dessin animé. Il y eut une nouvelle série de secousses lorsque l'avant du téléphérique dépassa le quai et que le vide apparut sous eux. Il y avait bien 8 mètres de dénivellation entre la cabine et les rochers en contrebas. De plus, le givre rendait le quai glissant. Kassad était maintenant presque à hauteur de l'arrière de la cabine.
« Allez !»
cria Lamia. Les autres reprirent son cri en cœur. Le consul jeta un coup d'œil à la gangue de glace qui craquait et se détachait du câble à mesure que la cabine s'avançait et grimpait. Puis il regarda de nouveau en arrière. La distance était trop grande. Kassad n'y arriverait jamais. Le colonel était lancé à une vitesse incroyable au moment où il atteignit le bout de la plateforme. Pour la deuxième fois, le consul pensa à un jaguar qu'il avait vu un jour aux eaux de l'Usus. Il s'attendait plus ou moins à le voir glisser au dernier moment sur une plaque de glace et continuer horizontalement sur son élan pour s'écraser sur les rochers à moitié couverts de neige. Mais, en un instant qui parut interminable, Kassad sembla prendre son vol, ses longs bras tendus en avant, sa cape flottant derrière lui, et il disparut, caché par l'arrière de la cabine. Il y eut un choc, suivi d'une longue minute de silence angoissé et immobile. Il y avait bien 40 mètres de vide au-dessous d'eux, à présent, et le premier pylône se rapprochait rapidement. Une seconde plus tard, Kassad apparut au coin de la cabine, progressant lentement le long d'une série de poignées et d'alvéoles gelées pratiquées dans le métal. Brown Lamia ouvrit la porte de la cabine. 10 mains se tendirent pour agripper le colonel et le tirer à l'intérieur.
« Dieu soit loué !»
murmura le père Hoyt. Le colonel prit une longue inspiration, puis sourit.
Il y avait un système de maintien d'appui. Il m'a fallu bloquer le levier avec un poids.
Je n'avais pas envie de faire un deuxième voyage tout seul. »
Martin Silenus leur montra le pylône qui se rapprochait rapidement et la couverture de nuages juste au-delà dans laquelle le câble se perdait.
« Nous sommes partis pour traverser les montagnes maintenant, » dit-il, « que nous le voulions ou non. »
« Combien de temps dure le voyage ?»
demanda Hoyt.
« 12 heures. Un peu moins peut-être. Quelquefois, les conducteurs arrêtaient la cabine si le vent devenait trop violent ou la glace trop lourde.
« Il n'y aura pas d'arrêt pour nous, » leur dit Cassad.
« À moins que le câble ne soit rompu quelque part, » fit le poète, « ou que nous ne heurtions un récif. »«
Taisez-vous, »
lui dit Lamia.
« Qui veut réchauffer une ou deux boîtes ? C'est bientôt l'heure du dîner. »«
Regardez, »
murmura le consul. Ils se massèrent devant les vitres à l'avant de la cabine. Ils se trouvaient à une centaine de mètres au-dessus des dernières collines. Derrière eux, la station était devenue minuscule et la vue embrassait le repos du pèlerin avec ses taudis et le chariot avant toujours à quai. Puis la neige et les nuages épais les enveloppèrent. Il n'y avait rien de prévu pour cuisiner à bord, mais le compartiment arrière était équipé d'un réfrigérateur et d'un four à micro-ondes pour réchauffer des plats. Lamia et Weintraub puisèrent dans les affaires de la cabine pour préparer une fricassée honnête à base de plusieurs viandes et légumes. Martin Silenus avait amené quelques bouteilles de vin du Bénarès et du chariot avant. Il choisit un Bourgogne d'Hyperion pour accompagner la fricassée. Ils avaient presque fini de manger lorsque la pénombre extérieure pâlit, puis s'éclaircit tout d'un coup. Le consul se retourna sans quitter son banc. Un rayon de soleil pénétra dans la cabine, qui l'emplit d'une chaude lumière dorée. Il y eut un soupir de soulagement collectif. Ils avaient eu l'impression que la nuit était tombée depuis des heures, mais ils s'aperçurent, en grimpant au-dessus d'une mer de nuages percée par un archipel de montagnes, que le soleil couchant était encore vigoureux. Le ciel d'Hyperion avait perdu sa couleur glauque du jour pour prendre les teintes lapis-lazuli plus foncées du couchant. Le soleil illuminait d'un rouge doré les nuages cotonneux et les sommets de roches et de glace. Le consul regarda autour de lui. Ses compagnons, qui lui paraissaient pâles et accablés une demi-minute plus tôt dans la pénombre de la cabine, semblaient maintenant rayonner en harmonie avec le soleil doré. Martin Silenus leva son verre.
« On se sent mieux ainsi, pardieu !»
Le consul suivit des yeux le câble massif qui grimpait devant eux. Il se perdait au loin avec l'épaisseur d'un cheveu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Sur un sommet encore distant de plusieurs kilomètres, le pylône suivant jetait des éclats de lumière dorée.
« 192 pylônes en tout !»
récita Silenus sur le ton blasé d'un guide touristique.
« Chacun a une hauteur de 83 mètres et une structure en duralumine et carbone renforcé. »
« Nous devons être déjà très haut, »
murmura Lamia.
« Le point culminant du parcours, d'une longueur totale de 96 kilomètres, domine le sommet du mont Driden, le cinquième en altitude de toute la chaîne bridée, à 9246 mètres. »
continua Silenus sur le même ton. Le colonel Cassad regarda autour de lui.
« La cabine est pressurisée, » dit-il. « J'ai senti le changement tout à l'heure. »«
Regardez !»
s'écria Lamia. Le soleil était depuis un bon moment sur la ligne d'horizon formée par les nuages. Il était en train de s'enfoncer dans le tapis cotonneux, illuminant le ciel d'orage de l'intérieur de cette masse et projetant une panoplie de couleurs spectaculaires sur tout le bord occidental du globe. Des corniches de glace luisaient sur les versants enneigés des pitons qui s'élevaient à 1000 mètres ou plus au-dessus de la cabine, qui grimpait toujours. Quelques étoiles, les plus brillantes, apparurent dans le ciel de plus en plus foncé. Le consul se tourna vers Brown Lamia.
« Pourquoi ne pas nous raconter maintenant votre histoire, H. Lamia ? Nous aurons tous envie de dormir plus tard, avant d'arriver à la forteresse. »
Elle vida le fond de son verre de vin.
« Tout le monde est d'accord ?» demanda-t-elle.
Toutes les têtes acquiescèrent dans la lumière rosâtre, à l'exception de Silenus, qui se contenta de hausser les épaules.
« Très bien, » dit-elle.
Elle posa son verre, mit ses jambes sur le banc adossé à la paroi, les coudes reposant sur les genoux, et commença son récit.